Voilà, le YouTube est en place, le Zoom est en place, donc on va pouvoir commencer. Shalom les bidoudeurs. Comment ça va les gens bidoudes?
Ça se termine.
Ça se termine. Quoi, demain?
Shabbat.
Shabbat. Top, top. Bon, dernière ligne droite. Ça va, comment vous sentez-vous? Très bien. Bon, Baruch HaShem. Il a fait merde. Alors, il y a quelqu'un qui écoute quelque chose en anglais, c'est très gentil, mais encore une fois, si on est en Zoom, ou on fait le silence dans son environnement, ou on enlève son micro. OK? Le micro, les amis, voilà. OK. Top. Alors, on commence? Ouais. Voilà. Je vous propose de commencer. Alors, la vérité, c'est que j'ai pris avec moi mon Chumash, bien sûr, pour notre cours de Parashat HaShavua, mais je voulais d'abord qu'on parle d'un autre sujet. Évidemment, on ne peut pas passer à côté des événements que nous vivons en ce moment, qui sont des événements incroyables. Et on ne peut pas passer à côté. On a tous vu la vidéo ce matin, cette nuit, de l'arrivée à la maison de Jonathan Pollard. Ça y est, après 35 ans, 35 années passées en prison pour avoir aidé le peuple juif, ça y est, il est enfin rentré à la maison. Donc, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. On va pas, je te rassure, on va pas faire un cours de géopolitique. De pourquoi il a été retenu aussi longtemps en prison alors que c'était plus que n'importe quel châtiment pour une faute comme celle qu'il a commise et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est pas de ça qu'on va parler. On va parler, Bichlal, grâce à lui, de la dimension de Matir Assourim. Que Akadosh Baruch Hu, il libère ceux qui étaient en prison. La notion de liberté est donc une notion fondamentale du judaïsme. Alors, je ne vous apprends rien, évidemment, c'est quelque chose qui est très connu, mais je voudrais qu'on voit jusqu'où ça va, cette dimension de liberté, et dans un deuxième temps, pourquoi est-ce que c'est si important que cela, la notion de liberté? C'est-à-dire, donc, tout d'abord, il faut savoir que dans la halakha, le plus haut degré de ce qu'on peut faire comme mal à quelqu'un, ce n'est pas de le tuer. Dans la paracha de Mishpatim, dans le livre de Shemot, eh bien, on peut voir toute la paracha de Mishpatim, c'est les dommages, les litiges qu'un homme peut causer à son prochain. Et quand on regarde de plus près tout cela, eh bien, on se rend compte que ça va décrescendo. C'est-à-dire que c'est des choses les plus graves aux choses les moins graves. Les choses les moins graves, ça va être dîner ma monote, c'est-à-dire j'ai cassé la voiture de mon copain. C'est pas grave. C'est-à-dire, tu vas devoir rembourser ce que tu veux, mais c'est beaucoup moins grave que tuer quelqu'un, évidemment. Et donc, on serait en attente de voir que le meurtre, c'est la première chose qu'on va évoquer. Le point de départ de la réchima. Eh bien non. Eh bien non. Le premier sujet abordé par la paracha de Mishpatim, ce n'est pas celui qui tuera son prochain, mais c'est bel et bien la notion de Eved. Ki tikne Eved Ivri. C'est-à-dire que encore plus grave que de tuer quelqu'un, c'est de lui prendre sa liberté, de le rendre en esclavage. Et c'est la raison pour laquelle, alors vous allez me dire, oui, mais alors à ce moment-là. Qui c'est qui fait le bruit? Qui c'est qui fait le bruit?
J'ai une bouteille ici, mais j'ai bu dedans, alors
Et ben, on est très heureux de savoir, Josie, que tu as bu dans la bouteille. Ça fait très plaisir. Eh ben, si tu mets ton micro, je t'entends. Ah ben, on a entendu merde aussi, hein. Par contre, Je ne sais pas qui c'est qui a un petit bruit comme ça derrière lui. Voilà, c'est mieux. Yofi. Donc, comme je le disais, c'est tellement important. Vous allez me dire, la liberté, c'est important dans la Torah, c'est important dans la Torah. Alors, pourquoi le judaïsme n'a pas tout simplement annulé? Alors, ça vient de chez Isar Tenenbaum, à mon avis, le bruit. Il faudrait couper le micro, s'il vous plaît. Bekitsour, vous allez me dire, ben alors, si c'était tellement important la liberté, pourquoi la Torah n'a tout simplement pas interdit l'esclavage? Mais la raison est très simple. La Torah écrite ne peut pas interdire l'esclavage pour une raison évidente, c'est que lorsqu'elle est donnée, il y a de cela 3500 ans, eh bien c'est une époque où penser à un monde sans esclaves, c'est même pas concevable. Ça ne fait même pas partie de notre univers. Donc la Torah ne peut pas à ce moment-là dire c'est assourd l'esclavage parce que personne ne peut imaginer quelque chose comme ça. C'est pas audible dans l'époque. C'est pourquoi ça va être le travail de la Torah orale, de la Torah chez Béalpé, de venir et de dire attention, attention. Lorsque on voit que l'humanité s'est affranchie de la notion d'esclavage, eh bien les rabbanim ont sauté sur l'occasion en disant ah ben alors ça veut dire que Arshav c'est assourd. Donc l'esclavage c'est terrible. La perte de liberté est quelque chose qui est fondamentalement opposé au judaïsme. Et pourquoi? Il faut se poser la question pourquoi. Eh bien la raison elle est très très simple. Tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Comprenez-moi bien. Quelqu'un qui est esclave, donc soumis à un patron, à son maître, eh bien, il a déjà un patron. Il ne peut donc pas accepter la maroute, la royauté de Dieu. Si je suis déjà soumis à quelqu'un, je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Alors, je vois des têtes faire comme ci, comme ça. N'est-ce pas, Madame Gross?
Oui, moi je trouve que actuellement, les gens, il n'y a pas assez d'autorité, les enfants n'ont pas de respect pour les parents, ni pour le maître. Ce n'est pas de la soumission, mais ils n'ont pas de respect.
Ah, je suis.
Donc, ils n'arrivent pas à réaliser qu'il y a un Dieu.
Ah, je suis complètement d'accord avec vous. Vous avez totalement raison. Mais c'est exactement le passage, le prix à payer pour arriver à accepter Dieu. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se libérer des anciens démons, des anciens patrons des chaînes, pour ensuite, une fois libre, décider quel doit être le cadre dans lequel je veux évoluer. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter Dieu comme mon patron si je suis déjà serviteur de quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle il était impossible de donner la Torah tant qu'on était en Égypte. Tant qu'on était les esclaves de Pharaon, on ne peut pas accepter d'être les serviteurs de Dieu. Il a fallu donc passer d'abord par l'indépendance nationale, la sortie d'Égypte, pour pouvoir recevoir la Torah, pour pouvoir accepter la royauté divine sur moi. Tant que je suis soumis à Pharaon, je suis soumis à Pharaon. Et c'est la raison pour... Oui ? Non ? Ok. Ce qui veut dire que je ne peux véritablement être Eved Hashem, je ne peux être véritablement un serviteur de Dieu, que si j'ai la possibilité de choisir qui est mon patron. Ainsi, eh bien, vous comprendrez pourquoi c'est tellement important l'indépendance avant de pouvoir... Eh bien, accepter la Torah. Pendant des générations, on était soumis au bon vouloir des nations. Donc, eh bien, vous allez me dire, c'est pas grave, même pendant qu'on était soumis au bon vouloir des nations, on servait Dieu. Atchouvaï, lo. On ne servait pas Dieu. En malasot. C'est pas moi qui le dis, parce que sinon vous allez dire encore que c'est de l'extrémisme, mais ça a été tout simplement déjà mentionné dans la Torah. Et ensuite, dans le livre du Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi, lorsque la Torah nous dit, Moshe nous dit, si jamais vous faites n'importe quoi, vous partirez en exil. Et alors, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Va'avatem sham. Là-bas, vous servirez. Elohim ha'aseh yedei adam, Elohim etz va'even, asher lo yerichun ve'lo yemishun. Vous servirez des dieux de bois et de pierre. Ou bikashtem misham. Et Elohecha, et Hashem Elohecha ou matzata. Rashi nous dit, et vous demanderez de là-bas. C'est quoi de là-bas? De l'exil. Oui, mais attention, ou de l'exil, depuis la synagogue et le Beth Amidrash. Mais sauf que, on travaille pour qui là-bas? Eh bien, le dire Rabbi Yehuda Halevi, quand tu es en exil, tu travailles pour la force spirituelle de l'exil. Toi, tu sers Dieu. Enfin, tu crois que tu sers Dieu, mais ça passe par, on va dire, un intermédiaire qui est la force spirituelle de l'endroit où tu es. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Halevi dira, qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah quand il nous a dit, Va'avatem sham Elohe etz va'even, vous servirez des dieux de bois et de pierre. Rabbi Yehuda Halevi nous dit, c'est la croix et la pierre noire de la Mecque. Puisque à 95%, le peuple juif est parti en exil, soit dans les terres du christianisme, soit dans les terres de l'islam. Donc, en malasot, tant qu'on est soumis à d'autres, eh bien, on ne peut pas se soumettre à Dieu. D'ailleurs, au sein même du judaïsme, l'esclavage, ce qu'on appelle Eved Ivri, n'a qu'une durée limitée. On n'a pas le droit d'acheter quelqu'un, alors aujourd'hui on n'a pas Rabbi Khlal, mais je veux dire, à l'époque, on n'avait pas le droit d'acquérir un esclave juif pour une durée excédente à 7 ans. Eh oui, Bashana Ashvit, Yetzel Achofshi, Chinam. En fait, c'est pas 7 ans, c'est 6 ans. C'est 6 ans et la 7e année, il sort en Chofshi, il est plus esclave. Entre parenthèses, le Réma, Rabbi Moshe Isserles, il dit que Alpi Alacha, on n'a pas le droit de signer un contrat de plus de 7 ans. Pourquoi? Eh bien parce que dans la dimension des contrats, il y a une dimension de Oved Ma'avid, de esclave et patron. Et donc, bah, tu ne peux pas te soumettre à un patron qui n'est pas Dieu pour une durée de plus de 7 ans. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, à l'époque où le grand rabbinat d'Israël, celui qui était le grand rabbin d'Israël, il l'était jusqu'à sa mort. La personne n'a posé de question parce qu'il n'y avait pas de contrat. Mais lorsqu'ils ont réduit le temps du grand rabbinat d'Israël à 10 ans, à l'époque du Rav Ovadia Yosef, eh bien ils ont dit, oh, mais attendez, maintenant on a un problème. Parce que vous nous faites un contrat de 10 ans, mais 10 ans, c'est plus que 7. Ça ne marche pas. Et donc, vous inquiétez pas, ils ont trouvé un trick pour faire en sorte que ce ne soit pas vraiment. En fait, c'est un contrat qui est renouvelable au bout de 5 ans, et ainsi de suite. Bekitsour, la notion d'esclavage est véritablement haïe dans le judaïsme. Quelqu'un, d'après la Torah, qui viendrait après ses 6 ans, 7 ans, et dirait à son maître, je suis bien chez toi, je veux rester chez toi, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Eh bien, on va lui percer l'oreille. Pourquoi? Nous dit Chazal, cette oreille qui a entendu au mont Sinaï, je suis l'Éternel ton Dieu, eh bien, tu t'es cherché un nouveau patron dans la personne de David. C'est pas normal. Donc, la notion de liberté est une notion fondamentale pour pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. La notion de liberté est le point de départ pour pouvoir décider qu'on se soumet à Dieu. En d'autres termes, vous comprenez à quel point enlever la liberté de quelqu'un, eh bien, c'est absolument terrible. Jonathan Pollard, pendant 35 ans, on l'a privé de ses libertés. Baruch Hashem, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Matir Asurim. Mamash. Mamash kacha. Maintenant, ça nous fait prendre conscience que cette notion de liberté, eh bien, en fait, c'est ce qui nous permet le plus de ressembler à Dieu. Parce que on doit leidamot bemidotav shel HaKadosh Baruch Hu. On doit ressembler et essayer d'acquérir les qualités de Dieu. Or, la qualité par excellence du divin, c'est la création. Il est le créateur. Or, pour créer, il faut être libre. En d'autres termes, la liberté par excellence, c'est celle dont HaKadosh Baruch Hu fait preuve lorsqu'il crée. De ce fait, lorsque moi, je suis libre, eh bien, je peux au mieux ressembler à Akadosh Baruch Hu et m'attacher à lui. C'est exactement de cela qu'on parle. Ce qui me permet de faire une transition et de pouvoir revenir dans notre paracha, parce que finalement, cette paracha voit le début de la fin de la liberté des Bnei Israël. Puisque dans la paracha de Vayechi, Am Israël arrive en exil. Ça y est. Alors oui, c'est vrai qu'ils sont installés à la fin de la paracha de la semaine dernière. Mais la paracha de Vayechi, ça y est, ça fait 17 ans que Am Israël est en exil. Nous sommes petit à petit privés de nos libertés. Alors, c'est pas tout de suite l'esclavage. Non, c'est pas tout de suite l'esclavage. Effectivement, l'esclavage ne va arriver que beaucoup plus tard. Mais c'est déjà un amoindrissement des libertés. Ah, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là? Eh bien, la première chose qu'on fait, c'est qu'on cesse d'être nous-mêmes. Celui à qui tu as pris sa liberté, il n'est plus lui-même. Et donc, la première chose qui se passe, c'est « Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim » le premier verset de la paracha « Sheva Esrei Shana Vayu Chayav Mea Sheva Shani Verba Mea Verbaim Mea Shana » « Vayechi Yaakov » seulement juste après, on nous dit « Vayikrevu Yeme Israël Lamut » Ben oui, puisque c'est l'ère, si vous voulez, de Yaakov, alors Israël est en train de mourir. Vous connaissez très bien la différence entre ces deux dimensions. Mais à ce moment-là, pourquoi il n'y a pas marqué « Vayechi Yaakov, Vayamot Israël » Non, il n'y a pas marqué « Vayamot Israël » et « Israël est mort ». Il y a marqué « Vayikrevu Yeme Israël Lamut ». Il est proche de mourir. Lama. Ben parce que Israël ne meurt jamais vraiment. « Netzach Israël lo ishaker velo ishaver » nous dit le prophète Shmuel. L'éternité d'Israël ne peut pas mentir. Donc Israël ne peut pas véritablement mourir, mais il est proche, il a un pied dans la tombe, si vous voulez. En d'autres termes, il nous reste quelque chose, un nitzotz. Il nous reste Ershéou Machéou. Comment ça se traduit, le Ershéou Machéou? Eh bien, c'est l'espoir de ne plus être en Égypte. Pendant 2000 ans, nous, on a traduit ça par l'an prochain à Jérusalem. C'est-à-dire cet espoir qu'un jour, on va sortir de là. Je rappelle, vous le connaissez hein, évidemment, mais je voudrais rappeler les deux dernières phrases du premier paragraphe du livre de Oroth du Rav Kook. Ce sont deux phrases très très fortes. Il nous dit « Tzipiyat Yeshua hi akoach » l'espoir de la délivrance est la force qui maintient en vie le judaïsme d'exil. La dernière phrase c'est aval ayahadut shel eretz israel hi yeshua atzma. Mais le judaïsme d'eretz israel est la délivrance elle-même. En d'autres termes, nous dit le Rav Kook, même quand on est là-bas, nous avons quand même l'espoir de revenir qui nous permettra un jour de revenir. Jonathan Pollard, comme les autres personnes à qui on a privé de leur liberté, ce qui les a fait tenir, c'était l'espoir de retrouver la liberté. Je parle de Jonathan Pollard parce qu'il est sorti aujourd'hui, mais on a entendu ça des dizaines et des dizaines de fois dans la bouche de Nathan Sharansky. Dans la bouche de Nathan Sharansky, qui était dans son goulag là-bas en Syrie, en Sibérie, il raconte que ce qui le faisait tenir, c'était l'espoir qu'un jour, il arriverait en Israël. Autre chose, pratiquement toutes les personnes qui ont survécu à la Shoah te disent que ce qui les a fait tenir, c'est qu'ils avaient un espoir. Alors, c'est pas forcément l'espoir de revenir en Israël, mais ils avaient quelque chose. Ils avaient quelque chose pour lequel ça valait le coup de se battre. L'espoir de retrouver quelqu'un, l'espoir de Voilà, chacun avec son espoir. Mon arrière-grand-mère, pas ma grand-mère, ma grand-mère, elle, elle a survécu à la Shoah parce que c'était une guerrière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas d'autre mot. Mais sa mère, à ma grand-mère, qui était avec elle à Auschwitz, elle était déjà faible lorsqu'elle est arrivée dans le camp. Par plein de stratagèmes, ils ont réussi à survivre toutes les deux, mais elle, si elle a survécu, mon arrière-grand-mère, que je n'ai pas connue, si elle a survécu, c'est parce que sa fille, ma grand-mère, lui a fait miroiter un espoir. Je vous explique. Lorsque la Gestapo et autres gendarmeries nationales françaises, je mets l'accent sur la gendarmerie nationale parce que ma grand-mère disait tout le temps que jusqu'à ce qu'ils arrivent à Auschwitz, ils n'ont jamais vu un seul Allemand. Ma grand-mère a été déportée, arrêtée, déportée par la France, par la police française. Elle n'a pas vu un seul Allemand avant d'arriver en Pologne. Bekitsour, lorsque ma grand-mère voit que la Gestapo a mandaté la milice locale du village de la Bachellerie pour venir faire une rafle et arrêter les Juifs, eh bien d'abord, on va pas s'embêter avec tous les Juifs. Ce n'est pas encore le moment des rafles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer tout simplement que la gendarmerie, avec la milice, vont prendre tous les hommes juifs du village, vont les envoyer à l'écart du village dans la forêt et vont les massacrer là-bas. Maintenant, le problème, c'est qu'à ce moment-là, mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, n'est pas au village parce qu'il est blessé, blessé de guerre, de la Première Guerre mondiale. Il a encore des séquelles de la Première Guerre mondiale. Et donc, au début des conflits, il se fait interner, en pensant que ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus sûr, dans un hôpital militaire français. Et donc, il va passer toute la guerre dans l'hôpital militaire. On ne va pas aller le chercher là-bas. C'est un ancien combattant français, c'est un blessé de guerre. Donc, on le laisse et il va passer toute la guerre en France dans un hôpital, ne sachant évidemment pas ce qui arrive avec sa femme, avec sa fille, et ainsi de suite. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ma grand-mère, elle a deux frères, Zachary et Moshe. Maintenant, ces deux-là, qui ont 14 et 15 ans, sont emmenés avec les autres garçons et sont fusillés là-bas. Ma grand-mère a 16 ans. Elle le voit, parce qu'elle se faufile pour voir où sont emmenés ses frères, et elle les voit se faire tuer. Elle revient en courant cherche à retrouver sa mère, et à ce moment-là, eh bien, elle lui dit « Maman, j'ai vu les garçons, ils ont réussi à s'en sortir, il faut qu'on survive pour les retrouver. » Elle savait qu'ils étaient partis, mais elle savait également que sa mère ne tiendrait pas à l'annonce de la mort de ses fils. Et donc, elle lui a fait miroiter l'espoir de les retrouver. Et grâce à cela, eh bien, les deux ont survécu à la guerre. Ils ont retrouvé mon arrière-grand-père après les combats, après la Shoah, et ils ont recommencé leur vie. On ne parlait plus des deux garçons. C'était devenu un sujet tabou. On savait qu'il y avait eu deux garçons, mais on n'en parle plus. Mais pour vous dire que ce qui l'a fait tenir, c'était l'espoir de pouvoir un jour les retrouver. En d'autres termes, l'espoir de la liberté, c'est ce qui me permet de tenir la période où on m'a enlevé ma liberté. Yaakov arrive en Égypte, c'est le début de la soumission à l'Égypte. La seule chose qui va pouvoir le faire tenir, lui et le peuple juif, c'est l'espoir du retour. Comment cet espoir va se concrétiser? Eh bien, Yaakov fait appeler Yosef et lui dit « Surtout, ne m'enterre pas en Égypte. » La malo. Alors, on connaît l'explication de Rashi. L'explication de Rashi qui dit qu'il avait peur qu'on fasse de lui une idolâtrie, qu'un jour, la terre de l'Égypte sera des poux et je ne veux pas que... Voilà. Mais sans rentrer dans Rashi. Alna tikberen bemitzraim. Ne m'enterre pas en Égypte. Pour le coup, il est possible que la traduction française soit encore plus parlante que l'hébreu. Ne m'enterre pas. Si quelqu'un est enterré quelque part, eh bien, je vais prendre un synonyme botanique, il est enraciné là-bas. Là où tu as tes ancêtres, c'est là qu'est ton identité. D'ailleurs, les Chinois le savent très bien. Dans le Tao Te Ching, dans le livre fondateur du taoïsme, il est mentionné que lorsque tu rencontres quelqu'un, tu ne dois pas lui demander d'où vient-il, mais tu dois lui demander où sont enterrés tes ancêtres. Ça apprendra beaucoup plus sur qui tu es que de simplement savoir de quel village tu viens. Si Yaakov est enterré en Égypte, alors l'enracinement du peuple juif devient l'Égypte. Vous allez me dire, mais attends, pendant 2000 ans, on a enterré des gens partout en exil. Et combien on a de Kibré Tzadikim en route de la Haaretz ? Nakhon, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Mais Baruch HaShem qu'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter en Israël, eh bien, il y en a plein qui décident de se faire rapatrier après leur mort pour être enterrés en Israël. Pourquoi ça ? Alors, on peut comprendre qu'on leur a vendu de la spiritualité, que le fait d'être enterré dans la terre d'Israël, ça fait du bien à la Nishama, Zenachon. Mais c'est surtout parce qu'ils veulent de nouveau faire partie du destin du peuple juif. Et l'enracinement du peuple juif, eh bien, il se fait ici. C'est ce qu'il demande à Yosef. Al na tikbereni bemitzraim. Le fait que Yaakov va être envoyé à Me'arat Marpella pour être enterré là-bas, eh bien, va devenir l'espoir pour le reste du peuple que nous aussi, on reviendra à la maison. D'ailleurs, cet espoir, il va être tellement bien compris par Yosef qu'au final, à la fin de sa vie, il rassemblera ses frères en leur disant « Bon, pour l'instant, je ne peux pas aller me faire enterrer en Israël. Je suis esclave de Pharaon. Donc moi, je ne suis pas libre de mes actions. » Mais quand vous allez sortir d'Égypte, ramenez-moi avec vous. Ramenez-moi avec vous. Je ne veux pas être enterré là-bas. Tout le paracha, c'est comment est-ce qu'on passe de l'enterrement d'Yaakov, Be'Maharat Amarpella, à la demande de Yosef de ne pas oublier de le sortir d'exil. Comment on fait ? Comment on fait pour passer de là à là ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Pour passer de là à là, il faut se rappeler de plusieurs choses. On va commencer les brachot. Yaakov va donner les brachot à ses enfants. Mais là, il y a quelque chose qui est bizarre. Je comprends qu'il veuille bénir Menaché et Ephraïm. Pas de problème. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il les bénit avant les autres. Bizarre. Vous allez me dire, mais non, mais c'est Yosef qui les a amenés pour se faire bénir. Bah, il aurait très bien pu dire, c'est très bien, laisse-les sur place, va chercher tes frères, on va faire la bénédiction. Et dans l'ordre, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on fait d'abord une bracha spécifique à Menaché et Ephraïm, et ensuite, on fait la bracha au reste des tribus ? La Mamakara ? Eh bien, tout simplement parce que la bracha qui est donnée à Ephraïm ou Menaché, eh bien, c'est la bracha qui nous permettra d'arriver à la bracha des autres. Ephraïm ou Menaché sont les fils de qui ? Ils sont évidemment les fils de Yosef. Oui, biologiquement parlant, ils sont les fils de Yosef et de Osnat. Bien sûr. Aval, deux secondes. Est-ce que Yaakov est sénile ? Quoi ? Yaakov, il a Alzheimer ? Comment ça se fait qu'il demande à Yosef, quand il voit devant lui Menaché et Ephraïm, ça fait 17 ans qu'il est déjà ici, qu'il est déjà en Égypte. Quoi, tu vas me dire qu'il ne les a jamais rencontrés ? Ah ! Rachid nous dit que Ephraïm, il étudiait tous les jours avec Yaakov. Alors, comment est-ce possible, Rabotai, que Yaakov demande à Yosef, « Mi elle est ?» C'est qui ? Qui c'est? Rachid dit ce qu'il dit. Mais moi, je veux comprendre le texte. Mi elle est. Réponse de Yosef, ce sont mes enfants qui sont nés ici en Égypte. Yaakov lui dit, non, tu n'as pas compris. Je ne t'ai pas demandé pour savoir de c'est qui, parce que je ne le savais pas. Mais j'avais peur que toi, tu ne le saches pas. Je vais t'expliquer mi elle est. Emlo ayeladim shelcha. Oui, biologiquement, c'est tes enfants, mais ce ne sont pas tes enfants. Ki Reuven ve Shimon yu li. Ils seront pour moi comme Reuven et Shimon. Ils font partie des tribus d'Israël. Ce sont mes enfants. Lihem. Et à ce moment-là, il va pouvoir les bénir. Et pourquoi on avance? On a dit parce que leur bracha va permettre d'être des autres. Vous connaissez la fameuse histoire? Ben oui, ben j'y viens. J'y viens. Pourquoi? J'y viens. Vous connaissez la fameuse histoire que lorsqu'il va les bénir, Yosef prend son fils Ménaché, qui est le Bechor, il le met en dessous de la main droite de Yaakov, et il prend Ephraïm, il le met en dessous de la main gauche. Alors c'est très bien parce que j'ai deux écrans, parce qu'il y a un YouTube et un Zoom. Donc dans le Zoom, c'est ma main droite, et dans le YouTube, c'est ma main gauche. Ça a l'air comme ça. Donc, il le met comme ça. Mais vous connaissez l'histoire. Hop, Yaakov, Siken et Yadav. Il dit la main manqua. Et Yaakov lui répond, Yadati beni, Yadati. Gamhu yeleam, ve gamhu yigdal, aval achiv akaton yigdal mimen. Yaakov dit à Yosef, mais non, mais t'inquiète pas. Je sais très bien qu'ils sont tous les deux des grands. Mais le petit, il sera plus grand que le grand. La question, c'est Makara, c'est quoi cette histoire? Rachid dit, de Ménaché va descendre Gidon, Gédéon, le prophète, le Chofet Gidon, du livre de Shoftim, chapitre 6. Alors que de Ephraïm va sortir Yehoshua. Alors vous allez me dire, bah ouais, Yehoshua est plus grand que Gidon. Mais c'est quoi? C'est juste, on a fait un rabbinomètre? Non. Yehoshua et Gidon vont tous les deux faire la même chose. Tous les deux, ils nous font hériter de la terre d'Israël. C'est-à-dire que Yehoshua va nous faire hériter de la terre d'Israël parce qu'il va être le chef qui va conquérir la terre d'Israël, pas de problème. Gidon nous fait hériter de la terre d'Israël parce que, eh bien, c'est l'époque où justement les Midianim ont pris possession de la terre d'Israël. Il va nous libérer de l'emprise des Midianim et nous réapproprier la terre d'Israël. Donc Gidon, Yehoshua, même combat. Seulement, Yehoshua a quelque chose en plus. Il ne fait pas que nous donner l'héritage de la terre d'Israël, mais il nous donne également la Torah. Moshe kibel Torah misinai umsara le Yehoshua. Donc, Yehoshua, il n'est pas que un combattant pour la terre d'Israël. Il est également un combattant pour la Torah. En cela, il est plus grand que Gidon. Mais ça nous apprend quelque chose. C'est la première des brachot qui va être donnée dans l'exil pour te rappeler qu'en exil, il faut que tu gardes deux choses. Si tu en perds une des deux, terminé. Ces deux choses, c'est l'espoir du retour en terre d'Israël et la Torah. Un juif qui a abandonné l'espoir de la terre d'Israël, eh bien, Baruch Hashem, ce n'est pas arrivé pendant 1800 ans. Tous les juifs avaient le regard tourné vers Jérusalem jusqu'à ce qu'arrive l'émancipation. Et lorsqu'est arrivée l'émancipation et la réforme, eh bien, on a effacé du livre de prière des réformim, déjà au 19e siècle, toute relation à la terre d'Israël. Par exemple, dans la Amida, quand on dit Teka Beshofar Gadol le Cherutenu, Vesanes le Kabetz Galelotenu, Vekabetzenu Yachad Merba Kanfot Aaretz Larzenu, Baruch Ata Hashem Mekabetz Nitra Amo Israël, bah on a changé le texte. On a dit Teka Beshofar Gadol le Cherutenu, Vesanes le Oshia et Cherit Israël, Baruch Ata Hashem Amoshia et Cherit Israël. On ne voulait pas parler d'Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de cette communauté-là, on sait, 200 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Énormément d'entre eux, ben, ont disparu du paysage juif. D'un autre côté, quelqu'un qui abandonne la Torah pendant ses 2000 ans d'exil, eh bien, lui aussi, il finit ben, simplement par se marier avec une non-juive et c'est terminé. En d'autres termes, les deux dimensions sont cruciales, ben, évidemment, pour idéalement, elles sont cruciales, mais pendant l'exil, si tu veux pouvoir survivre à l'exil, alors il te faut ces deux dimensions, Torah vers Eretz Israël. Alors des fois, Eretz Israël, pendant très longtemps, ça va être juste un rêve. Mais l'homme est chané. Ce rêve permet, en s'y accrochant, eh bien, à garder cette dimension de « j'ai l'espoir ». Et donc, je suis rattaché. Une fois qu'on a rattaché cela, alors il faut juste dire une chose. On a dit, donc quelqu'un qui abandonne l'un des deux, c'est très problématique. Donc ça veut dire que Torah, bli Eretz Israël, ça marche pas. Eretz Israël, bli Torah, ça marche pas non plus. Il nous faut donc les deux. C'est pas shoot, mais od. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, eh bien, le sionisme laïque, c'est-à-dire qui prône Eretz Israël, bli Torah, est en régression perpétuelle. Et d'un autre côté, le judaïsme orthodoxe sans Eretz Israël, lui aussi, est en chute libre perpétuelle. Dans toutes les communautés juives du monde, il y a d'année en année de moins en moins d'orthodoxes. Sauf en Eretz Israël, où ça monte d'année en année. Tout simplement parce que ici, il peut y avoir l'union des deux qui crée une identité idéale. Quand je dis orthodoxe, je nous inclus dedans. Vous m'avez bien compris. Orthodoxe, ça ne veut pas dire que tu t'habilles en noir et blanc avec un chapeau. C'est-à-dire que c'est bien clair pour tout le monde. Donc nous sommes, nous, des juifs orthodoxes, bien évidemment. OK ? Donc voilà comment on est capable de passer de là à là. T'as bien fait malade ! Mais maintenant qu'on est là-bas, vous savez ce qu'on peut faire? Eh bien, maintenant qu'on est là-bas et qu'on sait comment revenir ici, eh bien, on peut faire quelque chose qu'on a du mal à faire ici. Ici, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais on vit ça au quotidien de toute façon, on a le temps pour rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ici, il y a toujours un truc qui se passe, tu n'as jamais le temps de te poser. Combien on a le temps de se poser? Combien on a le temps de réfléchir 2 secondes? Il y a toujours un truc qui se passe. Et au niveau national également, ça ne s'arrête jamais. Bagalout, arbeyoter calme. Arbeyoter calme. Bon, il y a une petite attaque antisémite par-ci, par-là, un petit pogrom. Bon, d'accord. Mais dans la vie de tous les jours, je vais te dire, le rabbin, c'est pas trop compliqué. Ah, vous allez me dire, mais non, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, c'est un tourbillon. Mais tu connais pas le rabbin Fison de Metz? Et il arrête pas de te dire qu'il tourne dans tous les sens. Évidemment. Mais aujourd'hui, le judaïsme de Koutzla Aretz, il est pris dans un tourbillon à cause d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, qu'il le veuille ou pas, il est dedans. Il est dans cette ébullition constante. Mais bagalout, il se passe pas grand-chose, la vérité. Franchement, tu prends les juifs d'il y a, 300 ans, et les juifs d'il y a 700 ans, pas grand-chose qui a changé. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bagalout, on a le temps de se poser sur qui on est. Eh oui, puisque ce n'est que théorique. On ne pourra pas exprimer notre identité, mais on a le temps d'y réfléchir. Quand on arrive ici, on a terminé de réfléchir, on s'exprime. Bon, des fois, ce serait peut-être bien qu'on réfléchisse 2 secondes avant de parler quand même, mais on s'exprime. Mais bagalout, on ne peut pas s'exprimer. Donc, comme on ne peut pas s'exprimer, on peut réfléchir. Et donc, c'est ce qui nous permet d'arriver de la bracha de Ephraim ou Ménaché à la bracha de tous les autres tribus, qui sont en fait tout simplement le, on va dire, le CV du peuple juif. Quels sont les différents critères qui sont l'identité d'Israël? Chacune des tribus représente une valeur prônée par l'identité d'Israël. Quelles sont les valeurs prônées par Israël? Eh bien, c'est très simple. D'abord, la première valeur est prônée par Réhouven. C'est quoi la valeur que prône Réhouven? Pzizout. Pzizout, ou alors, dans le langage du Messilat Yesharim, Zrizout. L'empressement. Mère, mère, je fais les choses, tac, j'attends pas, boum. Ça peut évidemment avoir des conséquences négatives des fois. Parce que des fois, à force d'empressement, tu peux faire des erreurs. Zénachon. Mais c'est une qualité beaucoup plus qu'un défaut. Entre celui qui fait les choses trop vite et qui se trompe, et celui qui fait les choses trop lentement et donc finalement qui ne les fait pas, on va dire comme ça, un élève qui doit rendre son devoir, ok, il a 4 heures pour faire son devoir de maths au bac. Ok, il a 4 heures. Et il fait tout vite, psizout, et il rend le devoir au bout de 2 heures. Il a fait 50% d'erreurs, parce qu'il n'a pas bien lu l'énoncé, parce qu'il a été trop vite. Et donc, il va avoir 10 sur 20. Top. Il aurait pu se concentrer un peu plus. Mais quelqu'un qui ne rend son devoir qu'après 5 heures, ben il a zéro. Il a zéro. Donc, c'est beaucoup mieux d'être empressé que d'être marseillais. Bon, s'il y a des marseillais qui nous regardent, c'est une blague. C'est-à-dire, mais bon, vous avez quand même tendance à être un petit peu plus pépère. Plus pépère que les jeunes de Paris. Bon, peut-être que c'est vous qui avez raison. Ah, je ne sais pas. Nounou, vaut mieux être empressé que d'être trop glandeur. Donc, la première qualité du peuple juif, Réhouven, l'empressement. La deuxième qualité du peuple juif, Shimon. Bon, Shimon, les gars, on le connaît. Hein. Shimon, c'est pas compliqué. Shimon, quand on porte atteinte à quoi? Ben, quand on porte atteinte à la Kdusha de sa famille, quand on porte atteinte à sa sœur, il dit « Achezonaï a aset achotelon !» Quoi, notre sœur, c'est une prostituée, on ne sort pas la tête. Shimon, il représente l'honneur, le kavod d'Israël. Il se battra pour ce kavod, quoi qu'il arrive. Alors des fois, le problème, c'est que bah, tu t'excites un petit peu même quand il n'y a pas besoin. Mais c'est l'honorat. On a besoin de quelqu'un qui se bat pour le kavod d'Israël. Lévi. Mais cher Lévi! C'est qui Lévi? C'est quoi son truc à Lévi? Ben Lévi, son problème, c'est pas le kavod d'Israël de manière générale, mais son truc à lui, c'est le kavod de chacun d'entre nous. Puisque Lévi, il est avec Shimon dans l'histoire de Shrem, mais on va se rendre compte finalement que Lévi, à l'époque du livre de Bamidbar, l'époque de Maasé Pinchas, lorsqu'il va tuer Cosbi et Zimri, c'est pas pour défendre l'honneur d'Israël, mais c'est pour défendre la Kdusha du foyer juif. C'est pour défendre la Kdusha qu'il y a dans chaque individu du peuple d'Israël. On fait pas rentrer la Goya. Chez Shimon, c'est parce qu'on a violé Dina. Chez Lévi, on n'a pas violé Cosbi. On l'a fait rentrer dans le peuple juif, dit Naïm. Donc si Shimon, son truc à lui, sa qualité, c'est Kvod Israël, Lévi, c'est le Kavod Shel Kol Echad Ve'Echad, de chacun d'entre nous. Am Israël se particularise dans le fait qu'il n'a pas seulement la Kedusha ta Prat, mais il a également la Kedusha ta Klal. Il n'a pas que la Kedusha ta Klal, il a également la Kdushat à Prat. Tom, il a fait mal. Après, on a Yehuda. Pa-bam. Yehuda. Yehuda, il a un secret. Yehuda, sa qualité première, c'est d'être capable de passer les trois étapes. Yehuda, il est Gour, ensuite il est Arié, et ensuite il est Lavi. Mazé, Gour, c'est un lionceau, Arié, c'est un lion adulte, Lavi, c'est le roi lion. C'est le chef de la meute. C'est le chef de la bande. C'est le patron. Pour arriver de Gour à Lavi, il faut faire preuve de patience. Yehuda, c'est le secret de Kim'a, Kim'a. Il est tout l'opposé de Reuven, qui lui est empressé. Yehuda, il sait que les choses doivent prendre leur temps. Pas être en retard, mais prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. On a besoin de Reuven qui lui dit « Allez, 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 allez !» pour que justement, il ne soit pas en retard. Mais Yehuda, celui qui est capable de faire preuve de patience pour réaliser les choses dans la bonne condition. Zvouloun, il a une qualité incroyable. Il sait tout simplement montrer qui on est par l'intermédiaire de ce monde. Zvouloun, il est l'échofoniot. Il fait du commerce international. Seulement, on dit le Midrash qu'il y a eu énormément de guérim grâce à Zvouloun. Pourquoi il y a eu plein de guérim grâce à Zvouloun? Parce que à chaque fois qu'il allait faire du commerce, il arrivait dans un autre pays, les gens disaient waouh, mais vous êtes des gens incroyables. Pourquoi? Parce qu'on disait que Zvouloun, il faisait du commerce de manière honnête. Et les gens, ils étaient très, très étonnés. C'est bizarre. D'habitude, on n'a pas là, non, d'habitude, les commerçants, ils sont pas honnêtes. Mais toi, t'es honnête. D'accord, la cavole. Alors viens, on va aller. Tu sais, c'est pas moi, parce que je viens d'un endroit extraordinaire. Alors, on peut venir voir. Et donc, les gens venaient sur le bateau de Zvouloun et ils venaient voir un petit peu ce que c'est cet endroit, Eretz Israël. Et ils étaient convaincus et ils restaient. En d'autres termes, Zvouloun utilise ce monde, le business, pour être capable d'avoir une influence à l'extérieur. Zvouloun, c'est la Startup Nation. Zvouloun, c'est Waze. Zvouloun, c'est celui qui arrive à montrer les qualités d'Israël au monde. Attends, il y a Femerod, on a besoin de ça. Mais Zvouloun, ça ne suffit pas. On a également Issachar. Donc Issachar, il se bat pour la Torah. C'est tout. Issachar, son truc, c'est Toiré. Voilà, ça c'est une valeur fondamentale aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas prêts à laisser passer quand on méprise la Torah, quand on réduit la Torah à des petites choses. Torah, Torah, Torah. Zé Issachar. Chamor Garen. Rovetz Ben Amishpetaim. Il y a un autre élément qui est fondamental pour le peuple juif, c'est la justice. La reine Dan, où il y a Dinamo, Midata Mishpat, Midata Din, ça fait partie des valeurs fondamentales du peuple juif. On a également un autre bonhomme qui s'appelle Asher. Asher? Asher, il donne à manger à tout le pays. Shemena Lachmo. Asher, Shemena Lachmo. Regarde, au niveau géographique, le territoire de Asher est le territoire le plus riche d'Israël. De Asher vont sortir tous les Ma'adane Melech, vont sortir tous les denrées qui vont alimenter. Si Zvouloun, il est capable d'utiliser ce monde pour influencer à l'extérieur, Asher, il utilise ce monde pour influencer à l'intérieur du peuple juif. Sauf que jusqu'à présent, on a parlé de choses qui sont nécessaires à la survie. Il est temps également, pas seulement de survivre, mais de vivre. C'est pour ça qu'on a Naphtali. Naphtali, il s'occupe de courir et d'écrire des poèmes. En d'autres termes, Naphtali, il fait du sport et de la culture. Vous allez dire, c'est pas nécessaire, c'est pas essentiel. C'est tellement pas essentiel que c'est essentiel au carré. Un peuple qui ne se réfléchit pas ne peut pas évoluer. C'est complètement essentiel. Pour ça, il a besoin de quelqu'un qui lui permette de pouvoir s'adonner à la réflexion. Gad. Gad ou Gdoud. C'est un militaire de naissance. Gad, c'est Midat HaGvura, Midat HaMilchama. On en a besoin également. de Giborim, de guerriers, qui sont capables de faire la guerre de manière ordonnée. Pas comme Shimon et Lévi, qui sautent sur tout ce qui bouge. De manière ordonnée. On a besoin de Tzahal. Et puis, on a le petit Binya, Binyamin Achamoud. Ah, Binyamin. Binyamin, il est au top, au début et à la fin de chaque événement. C'est le chauffeur de salle et c'est celui qui vient fermer la porte également. C'est-à-dire que Binyamin, il est capable de voir des matzavim qui ne sont pas encore au top, mais dire, je reconnais que c'est déjà là, ça va commencer à venir. Moi, je me rappelle, j'étais très petit, donc c'est peut-être que mes souvenirs sont pas énormes, mais je me rappelle que je suis rentré au football club de Metz quand j'avais 5 ans. Mon frère, à ce moment-là, on avait déjà 8, et lui aussi, il jouait au FC Metz. L'année suivante, j'étais devenu un des piliers de l'équipe des 6 ans. Attends, tu crois? Mon frère avait 9 ans. À ce moment-là, alors je vous parle de choses seuls les médecins peuvent connaître, mais à ce moment-là, il y avait au stade Saint-Symphorien, au stade de foot de l'équipe du FC Metz, il y avait le challenge du Graouli. Alors le Graouli, c'était l'emblème du club, c'était une espèce de dragon. Et ils avaient fait un challenge. C'était quoi le challenge? Eh bien, c'était que toute la saison, avant le match des professionnels, il y avait un tournoi qui était organisé avec plusieurs clubs de la ville. Et c'était génial parce que dans ces tournois-là, eh bien, on ne s'habillait pas avec nos maillots de nos clubs, mais on portait des maillots des grandes équipes européennes. Manchester United, la Juventus de Turin. Et je me souviens que mon frère, il a commencé, c'était seulement à partir des âges de 9 ans qu'on participait au tournoi. Et donc mon frère, il faisait partie de l'équipe du FC Metz et donc il a joué. Maintenant, moi, je suis venu l'accompagner, l'encourager, premier match de mon grand frère et tout, dans le stade officiel. Et lui, il jouait, si je me trompe pas, pour la Juventus de Turin. Et bon, on est dans le vestiaire. Mon père, c'était le coach de l'équipe de mon frère. Attention. Et à ce moment-là, le coach de l'autre équipe, il vient voir mon père et il dit « On a un petit qui n'est pas venu. Il nous manque un joueur. Vous n'avez pas un joueur en plus qui peut venir jouer avec nous ?» Alors, mon père, il dit « Non, machin. » Et moi, je lui dis « Moi !» Alors, il dit « Vous voulez le prendre ? Il a que 6 ans. » Mais il se défonce. Alors, il a dit « Bah ouais, on s'en fiche. De toute façon, c'est un jeu, c'est pas... » Et donc, j'ai revêtu le maillot de Chelsea. Bon, qui était évidemment beaucoup trop grand, hein, bien sûr, qui m'arrivait au genou. Il n'y a pas de problème, j'ai dû rouler les manches 27 fois. Mais bon, et on rentre dans le stade. Maintenant, attention les amis, on rentre dans le stade, mais on est une heure avant le coup d'envoi du match des pros. Donc, autant te dire que le stade, il était vide. Enfin, pas vide, mais il était... voilà, il y avait peut-être quelques centaines de personnes qui étaient déjà là. Mon frère, il rentre dans le stade, il dit « Oh là là, c'est vide !» Et moi, je suis tout petit. Je vois des centaines de personnes dans le stade. Je dis « Mais, waouh, c'est comme à la télé !» Bon, lui, il avait un petit peu plus de réalité du terrain, mais moi, je voyais des centaines de gens qui me regardaient jouer au foot. C'était comme à la télé. À ce moment-là, mon frère, il était plus Yehuda, et moi, j'étais plus Binyamin. Au début. C'est pas encore le match des pros. C'est pas encore... Mais ça commence. Est-ce que tu es capable de voir que ça commence, Zé Binyamin? Capable de voir le début comme étant le début. Et non pas un faux départ. Et puis enfin, Yosef. Yosele. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Yosele, il a la qualité de ne pas avoir de défaut. C'est-à-dire que Yosef... David, comment il est présenté par Yaakov, il est parfait. Il est tellement parfait qu'à l'intérieur, tout le monde le déteste. Donc Yosef, son rôle et sa qualité, c'est d'apporter la voix du peuple juif pas comme Zvouloun, par l'intermédiaire du business. Mais Yosef, c'est vraiment l'ambassadeur du peuple juif chez les nations. C'est celui qui est capable de donner un message d'Israël provenant de Tzion. Yosef est celui qui permettra au final aux nations du monde, ayant vu le peuple juif revenir en Israël grâce à leur espoir jamais perdu, ils sont rentrés à la maison, et bien c'est grâce à la Torah et l'influence de Yosef que finalement les nations diront « Ki mitzion tetzé Torah udvar Hashem mirushalayim ». Voilà comment on passe de l'espoir donné par Yaakov qui dit « Ne m'enterre pas en Égypte » à Yosef qui dit « Ramenez-moi avec vous ». Matir Assurim, celui qui rend la libération au peuple juif pour nous permettre de nous soumettre de notre plein gré à Kadosh Baruch Hu, Shabbat, Shalom, Lekulam.
Shabbat Shalom.